On vit une époque extraordinaire. Je pense que ça fait 3000 ans que nos ancêtres ont attendu, rêvé, pensé à cette époque et nous on a eu la chance de la vivre. On a la chance de la vivre. La Torah raconte que le peuple d'Israël, s'il se comportera mal, sera chassé de sa terre. Ce fut le cas, comme on le voit dans les prophéties de Deutéronome 28, Parashat Ki Tavo, on sera expulsé de la terre d'Israël, on sera disséminé dans le monde entier, on sera expulsé de pays en pays, on n'aura pas de repos pour la plante de notre pied, on parlera de nous sans cesse, on sera persécuté sans cesse, très longtemps. Dans Parashat Nitzavim, la Torah nous dit, mais à la fin, on revient en terre d'Israël. La Torah parle 2-3 versets, pas plus. Les prophètes en parlent abondamment. Il faut voir Yechezkel, 36, Yirmiyahu, tous les prophètes. La Torah a promis qu'un beau jour, on revient en terre d'Israël. On y est. La terre sera aride, comme ça disait le texte. Et il y a un verset dans Yechezkel 36, et Rabbi Yonah Gemara, traité Sanhedrin, page 98a, Rabbi Abba a dit, tu n'as pas de signe plus clair de la fin, la fin des temps, que nous sommes déjà à la fin du parcours, ce verset de Yechezkel 36 qui dit « Et vous, montagnes d'Israël, portez votre fruit, portez vos frondaisons pour mon peuple qui est prêt de revenir. » Lorsque le peuple d'Israël, lorsque la terre d'Israël va donner ses fruits de façon abondante, ça signifie que la fin est proche. La terre sait que le peuple va bientôt revenir, elle donne ses fruits. Puis, de là, c'est notre liste. Comme le dit le Rambam, c'est marqué dans la Torah aussi, là-bas, dans Parshat Nitzavim, à la fin, Am Israël fera tshuva. Lors de la création de l'État d'Israël, il y avait 200 familles religieuses ici en terre d'Israël. Et les projections réalistes disaient, dans 20 ans, il n'y aura plus personne. C'est un pays gauchiste, un pays socialiste, non-croyant, athée. Le fait qu'il y ait maintenant des millions de juifs dans le monde et en Israël qui font tshuva, c'est absolument extraordinaire. Et moi, c'est mon métier. Je peux vous dire, on voit des gens. Aujourd'hui, quelqu'un est venu, non, ça n'avait venu me voir, mais j'ai un cousin moi qui vient, à lui, qui vient d'arriver à l'Eshiva. Il me dit, vous ne pouvez pas imaginer à quel point il était loin. Et tout coup, il se réveille comme ça, il vient. C'est extraordinaire, c'est un miracle, le miracle des miracles, à mon avis. Donc, l'éclair, nous nous plaçons maintenant dans une phase de fin des temps. Notre ancêtre, le premier, s'appelait Abraham Avinu. Et Dieu décide de conclure l'alliance avec lui, lui et sa descendance. On appelle cela l'alliance des morceaux. Ben Abtarim, il a coupé des animaux, des morceaux comme ça, il est passé entre les morceaux. Et dans la Torah, on nous raconte qu'à ce moment, lorsque Dieu lui dit que sa descendance sera peuple élu, tout à coup, Emma, Chashecha Gdola, Nofelet Alav. Emma, Chashecha Gdola, Nofelet Alav. Emma, une épouvante. Chashecha Gdola, de grandes ténèbres, Nofelet Alav tombe sur lui. Qu'est-ce qui se passe? Il a vu l'exil. Il a vu combien de souffrances. Il a vu combien de pogroms. Il a vu la Shoah, il l'a trouvé. Et Chazal, c'est Pirkei d'Rabbi Eliezer, c'est le plus vieux des Midrashim que nous avons. Il date d'il y a 2000 ans. Pirkei d'Rabbi Eliezer à Gadol, le grand Rabbi Eliezer, c'est le premier rabbin qui est cité dans la Mishnah, le premier rabbin qui est cité dans la Gemara. On l'appelle Rabbi Eliezer à Gadol. La Kabbalah dit que c'était un Gilgul de Moshe Rabbeinu. Il écrit un Midrash, il s'appelle Pirkei d'Rabbi Eliezer. Il dit que chacun des mots de ce verset exprime un des autres peuples auxquels ils seront confrontés durant l'exil. Il y a eu 4 peuples et un 5e. Je dis 4 parce que 4 en exil, un 5e en fin d'exil. Emma signifie l'épouvante. Ça correspond à Edom. Edom, c'est le monde occidental. Pourquoi Emma? Dans Daniel fait un rêve. Et là-bas, il voit 4 bêtes terribles, et une s'appelle Chaya Emtani, une bête épouvantable. Ces 4 bêtes correspondent à chacune à une autre royauté, elle correspond à Edom. Edom, le monde occidental. Nous savons bien que la royauté qui fait le plus de mal durant l'histoire est plus épouvantable, c'est le monde occidental. On a commencé par les Romains, puis toute l'histoire, l'Inquisition, les croisades. Et pour finir la Shoah, tout ça où « aime ton prochain comme toi-même », disait l'autre, leur version à eux. Emma, Chashecha, obscurité, c'est quelle royauté l'obscurité? La Grèce. Parce qu'à Hanouka, on allume des bougies pour éloigner pour éloigner l'obscurité que les Grecs ont voulu nous faire subir. C'est marqué au Chachrou, Erchichou Enem chez Israël. Ils ont obscurci les yeux d'Israël. Les ténèbres, c'est la Grèce. Chachécha Gdola, grande. C'est qui grande, dit le Midrash? La Perse. Pourquoi? Grande chose, ils ont fait que de vouloir vendre un peuple pour un peu d'argent. Haman est prêt, Assuérus, le roi de Perse, est prêt à vendre à Haman le peuple d'Israël pour le tuer contre un peu d'argent. Gdola Nofelet, tombe. C'est qui? Tombe Babylonie, qui a détruit le temple de Jérusalem. Le grand temple, le premier, était beaucoup plus important que le deuxième, là-bas il y avait la Shrina. À cause de lui, on en exige depuis cette époque-là, et on dit que le soukha de David Nofelet, la cabane, la soukha de David est en train de tomber depuis cette époque-là. Depuis cette époque-là, nous sommes en exil. C'est qui a fait tomber cela? Babylonie. Alav, sur lui. C'est qui ce sur lui? Il y a 2000 ans, Rabbi Zera Galol nous dit, sur lui c'est Ishmael. Ishmael, le monde arabe. Pourquoi? Il y a un verset dans les Tehillim qui dit Alav Yatzit Nizro. Alav, sur lui, Yatzit, brira Nizro, sa couronne. Couronne de qui? Du Mashiach. Sur Ishmael, brira la couronne du Mashiach. Ça veut dire quoi? Ishmael, il est le peuple qui va amener Mashiach. Il va grandir, il va grandir, il va grandir. Le Midrash continue, il dit Shalav Tsomer ben David. Sur lui pousse le fils de David. Donc Ishmael, à la fin des temps, doit tout à coup grandir. On voit que le monde ishmaélite, pendant longtemps, ce n'était pas un monde. Il y avait l'Angleterre, la France, l'Amérique, la Russie. C'est le monde arabe. Tout à coup, il a pris l'importance en quelques dizaines d'années. Phénoménal. Phénoménal. Sur lui pousse le fils de David. Donc quand nous voyons maintenant le monde ishmaélite en train de monter, on voit maintenant l'État islamique, on voit, bon, chacun se dit, qu'est-ce qui se passe là? En tout cas, nous, ça nous réconforte qu'il est en train de monter, Mashiach est sur lui. Et à la fin, il va tomber. Ça, c'est le prochain verset dont je vais vous parler. C'est celui qui se trouve à la fin de Chaye Sara. Fin de Chaye Sara, on nous raconte, la Torah nous raconte la mort d'Ishmaël. Elle nous dit qu'il a vécu 137 ans. Et Pnei Kol Echav Nafal. Comme ça, finit par ces mots-là, finit la paracha de Chaye Sara. En face de ses frères, il s'est étendu. Rachidin Nafal signifie s'étendre. Ça, c'est le sens simple. Donc, les peuplades descendants d'Ishmaël se sont répandus, se sont étendus dans la région là-bas qui est évoquée dans ce verset. Mais Nafal, non, c'est bien ce que veut dire Nafal. Ça veut dire tomber. Vient le Balatourim. Balatourim, qui était un des grands rabbins du Moyen-Âge, qui a fait un commentaire sur tous les chumash et ce commentaire, et il dit, juste après ce verset, commence le Parchat Toldot, qui nous dit, voici les engendrements, la descendance de Yitzhak ben Abraham. Pour nous dire, pourquoi on a juste posé les deux, pour nous dire, lorsque tombera à la fin des temps Ishmaël, alors viendra le Mashiach, qui est le descendant de Yitzhak ben Abraham. Donc quand on voit Ishmaël tomber, ça veut dire qu'il faut se préparer, faire tchouva, parce que quand Mashiach vient, il faut faire tchouva, il faut être réglo, super réglo, c'est fini. On ne peut plus faire tchouva tant que Mashiach ne vient pas, on peut encore faire tchouva. Dès qu'il est là, c'est trop tard. Est-ce qu'il tombe, Ishmaël? C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Les projections géopolitiques, il y a 40 ans, disaient l'État d'Israël a aucune chance de survie au Moyen-Orient. Un petit peuple, à l'époque, était 4 ou 5 millions, face à 300 millions d'Arabes. Alors c'est vrai qu'ils sont moins calés, on va dire, d'accord, au niveau technologique, etc. Mais ils rattrapent, ils sont armés. 300 millions contre 5 millions, tu ne peux pas tenir. Tout le monde a dit, ça sera terminé, fini. Mais Dieu dit, vous dites fini, moi je ne dis pas fini. Et qu'est-ce qu'il fait? Extraordinaire. Ça a commencé par l'Irak. Vient l'Amérique détruire l'Irak. Je me souviens quand moi j'ai fait l'armée, à l'époque j'ai fait l'armée en 80, il y avait la guerre, pendant 8 ans il y a eu la guerre entre l'Iran et l'Irak. Donc le général nous a dit, vous pouvez vous imaginer quel bonheur c'est pour nous. Ce sont des centaines de divisions de tanks, des millions de soldats qui se battent, qui, eux, ont comme ennemi commun nous et se battent entre eux. Pour finir, donc l'Irak, c'était une puissance super grande. Bush, le père, vient d'Amérique, les soldats, pour éliminer l'Irak. Après le printemps arabe, qui est devenu un été, qui est devenu un automne, qui est devenu un hiver, printemps arabe, tu parles, c'est la mort du monde arabe, la Tunisie, puis la Libye, et puis l'Égypte, et maintenant la Syrie. C'est peut-être nos pires ennemis. C'est extraordinaire. Donc, tous les ennemis qui nous entouraient, c'est 300 millions. Alors, qui reste? Il y a un peu Hezbollah qui est en baisse de, 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 en en baisse de régime. L'Iran aussi. On n'a pas de soucis. On a passé Pharaon, on a passé les Grecs, les Romains, les Byzantins. On passera aussi cela, jusqu'à la fin. Cette fin, elle n'est pas facile. Chazal, mon sage de mémoire bénie, parle de douleur d'enfantement du Messie. C'est comme un enfantement. Les dames savent, bien qu'il y ait la péridurale, c'est un truc israélien, boré péridurale, d'accord, mais quand même, c'est douloureux. C'est-à-dire, si on ne fait pas de tchouva, ça sera terrible. Si on fait de tchouva, ça pourra aller vers Hachem. Mais c'est un accouchement. Aucun accouchement n'est facile. On a une prophétie dans la Torah du plus grand prophète de l'histoire, Goy, non-juif, Bilam. Comme l'histoire le raconte dans Parashat Balak, Bilam vient par trois fois maudire le peuple d'Israël, Dieu fait un miracle et il y a une bénédiction qui sort à la place de la malédiction. Balak, le roi qui a payé très cher les services de Bilam pour venir maudire, est furieux. Et il se met à insulter Bilam, et Bilam commence à parler sur lui, et pour finit avec une prophétie sur la fin des temps. Cette prophétie finit par le verset suivant. « Oï, malheur, mi-irie mi-sou mo'el. » Qui pourra survivre lorsque Dieu va amener tous ces événements ?« Oï, je parle, c'est la fin des temps. » C'est dur, c'est un accouchement. Il est écrit dans Zacharie fin 13, début 14, enfin, ça commence à la fin 13, et ça continue après en début 14, puisque ce verset est dans fin 13, Zacharie, qu'il y a une guerre terrible. Deux tiers de Haaretz, de la terre, vont disparaître. Et le tiers qui reste, Dieu va l'affiner comme on affine l'argent et l'or. Ça va être terrible. C'est quoi Haaretz ? Marloque, divergence d'opinion chez les commentateurs. Il y en a qui disent Haaretz, comme en hébreu, Efoata, Baaretz. Je suis ici sur la terre, avec la terre d'Israël. Ils disent non, Haaretz, on parle du globe, le monde entier. Je ne sais pas comment ça va être, je ne suis pas prophète. Mais en tout cas, facile, ça ne peut pas être. Oy mi yem sumoel. De nouveau, le Midrash Pirkei de Rabbi Eliezer. Ce vieux Midrash datant d'il y a 2000 ans. Il va nous dire qui est à l'origine de beaucoup des souffrances qu'il y aura dans cette dernière phase de l'histoire. Le mot sumo, maître, d'accord, va maître, c'est écrit en hébreu normalement sin, vav, mem, vav. La Torah est écrite sans le premier vav. Sin, mem, vav. On peut dire comment Shmo. Shmo, c'est son nom. Oï, malheur à celui dont le nom est elle. Elle, c'est le nom de Dieu. Dit Pirkei de Rabbi Eliezer, il y a deux peuples sur terre qui sont branchés avec Dieu. Un Israël, l'autre Ishmaël. Pourquoi ? Les deux sont descendants d'Abraham avec nous. Les deux sont circoncis. Les deux adorent un Dieu unique. À part ça, on n'a rien à voir ensemble. Mais il y a ces points quand même qui sont communs. Eux seront à l'origine du oï, du malheur de la fin des temps. Donc au moins on voit à peu près comment ça se passe. On voit qu'il y a un danger. Mais on ne peut pas ne pas voir la main clémente de Dieu sur Am Israël. Il est vrai qu'on a vécu un exil terrible, une Shoah terrible. Il y a presque 25 000 Israéliens qui sont morts dans les guerres d'Israël. Il y a des attentats sans cesse. Mais il y a néanmoins du miracle quotidien. Il est écrit à la fin du prophète Yoël, qui parle, Yoël, c'est presque quatre petits chapitres, parle tous de la fin des temps. Le dernier verset est le suivant. Donc c'est la fin des temps. Veniketi damam lo niketi. Je vengerai le sang que je n'ai pas encore vengé. Bacham shochen betzion. Et Dieu demeure à Sion. Ça veut dire quoi ? Où est le rapport entre le début et la fin ? Dieu va venger le sang des Juifs qui a été versé dans le pays d'exil. Et quand on parle maintenant du dernier exil, on parle de l'exil d'Ishmaël, enfin de la confrontation avec Ishmaël. Et on le voit, on ne peut pas dire qu'on ne le voit pas. Comment Dieu maintenant est en train de régler les comptes extraordinaires. La Syrie, c'était notre pire ennemi, combien de prisonniers étaient torturés là-bas, des trucs terribles. Et maintenant, c'est eux qui se déchirent. On n'est pas pour. Mais néanmoins, on voit la main de Dieu, c'est clair. C'est... Et ici en Israël, Vachem Shochen Betzion, Dieu demeure à Sion. Shochen, c'est la Shrina, la présence divine. La présence divine se trouve en Israël. Les commentateurs disent, lorsque les ennemis d'Israël verront que de façon anormale, eux sont en baisse de régime, et Israël va monter, et ils sentent que c'est leur fin, ils vont vouloir se venger pour dire, si on ne crève pas tout seul, on va faire couler aussi Am Israël. Dieu dit, je demeure à Sion. Il y aura pas Kippa de Barzel, pas le dôme de fer, un dôme de lumière. Un dôme de lumière qui protège Am Israël. On va regarder maintenant quelques petites images. On va voir l'année passée, on est bientôt un an de cela, bordure protectrice, sous Ketan, les miracles extraordinaires qu'on a vécus.
On this day that there was supposed to be a ceasefire, that Israel was 8 days into the war, there had only been an aerial campaign, and Israel was convinced there was going to be a ceasefire. The Hamas had assured the Egyptians, the Americans, and the Israelis through the Turks and the Qataris that, yes, they were going to accept this ceasefire. A half hour before the ceasefire begins, they open up with a barrage. It was something like 120 rockets that day.
I remember that.
That was really sleight of hand to take our attention off of what they were going to do that afternoon. That afternoon, they were going to launch their first terrorist tunnel attack. Several days before, there are a group of religious Jews from Bnei Brak who have a small factory that makes what's called matzah shmura. Matzah shmura means literally watched over matzah. It's like the uber kosher matzah for Passover, which has to be watched over from the time the first seeds are planted. They have to be planted according to all the biblical strictures. Mm-hmm. They're watched over all during the growing process. Mm-hmm. And every seventh year, the land has to lie fallow. The land gets a Sabbath as well. It's a sabbatical year. So this group of religious Jews was looking for a large field of very green, unripened, tall wheat that they could harvest immediately and store for 2 years, because next year there won't be any wheat. They look all over Israel. They can't find anything that meets their needs. Finally, down in an area called Otef Aza, which is like the envelope of Gaza, right on the border, they find acres and acres of a wonderful field, 5 feet tall, super green wheat, planted according to all the biblical strictures. And they go to the farmers and they say, we want to make a deal to harvest all of it right now. And the farmers said, well, you know, we want to make sure we get the price for it that we would pay in September. And they haggle back and forth, and they say, it'll be a good deal for you. You won't have to work these extra 2 months, no irrigation, no upkeep costs.
Just the expense of growing it, they won't be out.
And you won't have to sell it piecemeal. We'll take the entire crop. You won't have to sell a little here and a little there. But we must harvest today, because every day that goes by, we're losing the ability to store it for 2 years. We want it at its greenest state. We're right now less than 3,000 meters from the border. That's a closed military area.
It's the closest we've been so far. You're on the border.
Close to Gaza land right now.
Yeah.
As you can see, this field's been harvested and plowed under already. 2 days after they harvest the field, 13 Hamas terrorists pop up from a tunnel right in the middle of the field.
In the middle of the field.
And if you take a look over here, you'll see, not revealing any military secrets, everybody knows it, there's eyes in the sky, there's an observation balloon.
Right, it's like a, and I wasn't sure what that was at first.
There are cameras all along this area, and there's a unit of female soldiers, all female, all girls, who watch monitors 24 hours a day, because boys don't have the same powers of concentration.
No, they don't.
When they popped up, as they come up out of the tunnel, they do a ninja somersault and then look around going, where the heck's the wheat field? This was supposed to be our camouflage.
Yeah, it's amazing.
Instead of being invisible, they're now visible to everything.
They're totally exposed.
A 19-year-old girl sees them. She immediately sounds the alarm. There's an aerial asset that engages them, hits them with a missile. We have a special ready response team that engaged them within 90 seconds. Half the terrorists were killed. The other half of the terrorists were driven back down into the tunnel. And every newspaper account that you'll find will tell you, but for those religious Jews who were following biblical strictures, we would have had a disaster.
Grâce à la Shemitah, Baruch Hashem, ceux qui sont chômeurs de Shemitah, qui gardent la Shemitah, entre autres, Dieu nous protège, Baruch Hashem. C'est clair que cette présence divine, des miracles qu'on a vus et qu'on va voir, Dieu nous aime, mais il ne nous aime pas forcément parce qu'on fait des bons falafels, on a des belles plages comme ici à Netanya, ou on est fort en high-tech. Dieu nous aime parce qu'on est le peuple d'Israël, le peuple de la Torah, on étudie sa Torah, on pratique sa Torah. Il faut bien comprendre et bien se renforcer, parce que bien que Dieu fait des miracles, il y a hélas quand même des blessés, il y a quand même des morts. Il y a la gifle avec la caresse. Mais on pourrait même éviter toute gifle, ça dépend de nous. Nous sommes dans quelques jours le 12 juin, il y a exactement un an, ont été kidnappés les trois garçons qui, on ne savait pas, ont été exécutés immédiatement après leur kidnapping. Mais néanmoins, Tsahal rentre à Hebron de façon anormale, parce qu'il n'avait pas le droit normalement, d'après les accords, de rentrer à Hebron. Mais là, étant donné qu'il y a trois kidnappés, donc on est rentré à Hebron. Et Tsahal en a profité pour arrêter beaucoup d'agents du Hamas qui étaient recherchés depuis beaucoup de temps. Les agents du Hamas, ils commencent à envoyer des missiles. Israël commence à bombarder. Ça commence à s'exciter de tous les côtés. À la fin, Israël commence à rentrer avec l'armée de terre à Gaza. Et là, on commence à comprendre un peu le miracle extraordinaire que Dieu nous a fait. C'est vrai, les trois ont été kidnappés, et c'est terrible, et tués. Mais par le fait que les missiles du Hamas ont fait presque aucun dégât en vie humaine, le Hamas a dû dévoiler un secret qu'il ne voulait pas dévoiler. Les tunnels. 31 tunnels. On sait qu'il y en a aussi du côté du nord avec le Hezbollah, du côté du Liban. Le Hezbollah et Hamas avaient prévu de... On voit ici, voilà, un passage dans le tunnel. On voit les Arabes qui passent là-bas. Ils avaient prévu Rosh Hashanah, donc il y a 8-9 mois, d'attaquer simultanément au nord et au sud par les tunnels. Ça aurait été une Shoah. On aurait eu au moins 2000 morts. On ne connaissait pas cette arme. On était pris de surprise. C'est un jour de fête. Il y a forcément moins de gardes sur les frontières. Ça aurait été terrible. Le Hamas, voyant qu'ils envoient des missiles, ça ne sert à rien, ils ont dévoilé leur arme secrète. On a dévoilé les tunnels, on a pu les détruire. Ça, c'est peut-être le plus grand miracle de la guerre, qui, comme j'ai dit, on a reçu la gifle, ces trois qui ont été assassinés, mais Baruch HaShem, on a sauvé 2000. Tsahal rentre dans Gaza, et là aussi des miracles extraordinaires. Gaza, le Hamas nous attend. Chaque maison là-bas, c'est une forteresse. Des pièges, des bombes, des mines, des tunnels. On rentre d'un terrain inconnu. Normalement, on doit avoir des pertes énormes. Et il y a eu des miracles extraordinaires. Un des miracles qu'on va voir tout de suite, c'est un des commandants d'une certaine unité de choc de l'armée qui, durant la nuit, arrive en rampant dans un terrain dégagé, donc dangereux, non protégé, face aux objectifs du Hamas qu'il devait conquérir. Maintenant, au petit matin, il devait attaquer, mais en attendant, il y avait d'autres bataillons qui devaient venir en ripouille, comment on dit ça, en ripouille, en protection par l'arrière. Donc, eux tirent de l'arrière et peuvent avancer et attaquer. Alors, ils ont pris position dans le terrain dévoilé dangereux, et les bataillons de protection qui devaient venir derrière ne sont pas arrivés. Problème de coordination. Maintenant, le petit matin va se lever, on est là, faire marche arrière, c'est trop tard, on va commencer ici, ils sont dévoilés, on est mort, c'est cuit. Qu'est-ce qui s'est passé? On est au mois de juillet. Vous êtes de la région. Il y a eu un brouillard épais, comme on ne voit jamais. On voit du brouillard encore, et de temps en temps. Hein, Gaza, c'est comme la Ternière, c'est le bord de la mer. De temps en temps, au mois de décembre, au mois de janvier. En plein juillet, un brouillard épais qui s'installe sur tout le champ où nos soldats étaient cachés. En attendant, les bataillons de ripouille de protection ont pu venir et ils ont pu attaquer. Voici le commentaire du soldat.
הגענו לשטח רחות 100 מטר מקו ההתקפה, לא רואים את הבתים. השם, זה פשוט נס, שעה וחצי של ערפל. אנחנו בתוך שטח השמדה, באיחור שעה וחצי להתקפה. אם לא היה את הערפל הזה, זה היה מתחיל מאוד קשה. בדרך כלל בדברים כאלה במלחמה, שאתה מתחיל לקום, קשה מאוד ליישר את זה. ברוך השם, זה היה ממש נס.
Donc le commandant qui est non religieux comme on le voit, dit ממש נס, vraiment un miracle. Le 8 juillet, Tsahal rentre dans Gaza. Du 8 juillet au 5 août, dans toute la période où l'armée israélienne se trouve à Gaza, il y a les duels entre l'armée israélienne et les missiles. Les missiles, sans cesse, missiles, missiles, missiles. Hamas a envoyé 3360 missiles, environ 50 000 kilos d'explosifs. C'est inimaginable. Combien de morts à la fin de la guerre ? Durant cette période-là, il y a eu des morts aussi après et aussi avant. Mais durant la période où on est rentré à Gaza, là, toutes les mères du peuple juif, même les non-religieux, sont mises à prier. Même, je crois que Lapid, il a pris un télim, il a lu un peu dedans. Même lui. D'accord ? C'est-à-dire, tout le monde. Dieu entend les prières. Dieu entend les prières. C'était miraculeux. Il y a eu zéro mort. Un seul Thaïlandais, qui ne comprenait pas très bien les mots, il n'a pas voulu écouter les clauses de sécurité, et il est mort. Sinon, à part ça, zéro mort. 50 000 kilos d'explosifs envoyés. Maintenant, on sait qu'ils ne sont pas très bien visés, on sait que ce n'est pas des bonnes qualités, mais quand même, je veux dire, ce sont des bombes meurtrières. Comment ça se fait ? D'abord, 475 missiles sont tombés sur Gaza. Je ne sais pas si c'est, ils ne sont pas visés, ou le bon Dieu, il a pris le missile, zip, retour. Il y en a qui ont se posé même, ils ont à l'hôpital Shifa, un des grands hôpitaux de Gaza, ils ont là-bas une rampe de lancement de missiles. Et bien le missile a explosé là-bas, boum, allez, 10 morts dans l'hôpital. Un autre tombé à Rafiyar, 8 morts. Un autre missile est tombé, en Israël il y avait beaucoup de protestations contre Benjamin Netanyahou. Pourquoi est-ce que pendant qu'eux nous envoient des missiles, nous on leur fournit toute l'électricité ? On est en guerre, ils nous tuent, tout coupe l'électricité. Netanyahou n'ose pas à cause de Dat Kahal, l'opinion publique, tout ça. Ok, qu'est-ce qu'il a fait HM ? Pas de problème. Il prend un missile gaz, il le fait un peu dévier. Sur la centrale électrique de Gaza, 70% de l'électricité de Gaza s'est arrêtée. Baruch HM, pendant une semaine. Et des fois, tout simplement, le bon Dieu qui fait des miracles, comme on va voir ici, il lance un missile, le mortier, et zloup, Dieu est grand, effectivement. C'était à Gaza. 224 missiles n'ont tout simplement pas explosé. On verra des photos dans quelques minutes, même des films. On voit comment le missile tombe, il n'explose pas. 224, c'est quand même bon. 360 missiles, 224 n'ont pas explosé. Et que 584, je précise que, parce qu'on croit que tous les missiles ont été interceptés par le dôme de fer, que 584 ont été interceptés par le dôme de fer, par qui n'est pas de Barzel. Et là, on va voir maintenant le colonel Barak, qui est donc le responsable du projet Dôme de Fer, qui va parler, qui va dire comment est-ce qu'on a réussi à faire un projet aussi réussi.
מה שהמערכת הזאת עושה בעיקרון, היא אוספת את המידע ממה שקורה מסביב, משערכת את המסלול ורואה שהאיום אמור לפגוע או עלול לפגוע באזור המוגן, ומפתחת למעשה מאות תוכניות ירוש.
אמרו לנו, זה לא יעבוד בחיים. זה לא יעבוד בחיים מהרבה סיבות. כמעט כל אחד מהמרכיבים הסבירו לנו, באותו ומפתים לנו.
זה באמת עושה, זה הקדוש.
כדי שיהיה ברור לכולם, שבעת השם הייתה זאת, סיבה שאני מזכיר את זה, זה שלא נחשוב שכיפת ברזל עשתה משהו, צריך לשים את הכל בפרופורציה.
מה השם הייתה זאת, דודיו שלה הבנו. נורמלמן, זה אמריקאים אומרים, זה אוקום שונט לתניר ותרוק. וברוך השם, זה מרש. Il ne faut pas croire qu'on a été sauvé que par ça. Comme je dis, que 584 sur 3360 missiles. Donc il reste encore 2077 missiles qui ont été envoyés, qui ont explosé, et zéro mort. Un missile, comme ça est tombé en Égypte, a fait 22 morts. Un missile. 2077 missiles en Israël, zéro mort. Alors comment ça se fait ? Ben, ils ne visent pas très bien, et ils visent sur la région de Tel Aviv. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-uns, des terrains vagues, et chaque fois ils tombent dans un terrain vague. C'est ce qu'il faut dire. Je veux dire, c'est pas normal. Hein, il y a 2-3 terrains vagues, tous les 2077 missiles sont trouvés dans les terrains vagues. Quand même bizarre.
עוד לפני שהיה לנו את טכנולוגיית כיפת ברזל, וכל טיל שלהם פוגע ממש בול בשטח פתוח. ארץ ישראל היא ארץ קטנה וצפופה. הערים מיושבות במיליוני אנשים, נשים וטף. אזור גוש דן, בקושי אפשר להכניס שם מחט. מרוב הצפיפות, מחירי הדירות מאמירים. דירה בתל אביב כבר יותר יקרה מדירה במנהטן. אבל הקדוש ברוך הוא, אין לו בעיה. הוא רק עושה פור קטן, והטילים זזים הצידה, לשטחים פתוחים.
סלסה דונלי טראבג. Mais pas tous sont dans les טראבג, beaucoup sont trouvés dans les habitations, dans les stations d'essence, dans les endroits extrêmement dangereux. Et néanmoins, comme j'ai dit, miracle sur miracle sur miracle. Alors maintenant, on va voir cette vidéo qui va nous montrer une petite partie de ces miracles. Et je vous dis, il faut remercier Hachem.
בבניין הזה שמאחורה הייתה פגיעה ישירה מהקומה התשיעית והשמינית. כל הדיירים שבבניין הזה אין להם ממד בגלל שזו בנייה ישנה.
פגיעה ישירה בבניין בין 8 קומות, רק בנס ישני יושביו לא נפגע, הרס כבד בקומות העליונות.
פגיעה ישירה בבית מגורים, הרס רב ונפגע חרדה.
זה נס, פשוט נס, אין חרות, אין מה להציל.
קילגרד פגע ישירות כאן, במרפסת של אורי, טבול.
הכנתי אוכל, בישלתי קצת, ולא יודע למה עליתי לאכול מול המחשב. שתי דקות, דקה אולי לפני הייתי במטבח. זה מזל, זה מזל.
רקטה התפוצצה כאן, במקום רומה מאדם ומכוניות חולפות. בדרך נס, איש לא נפגע, אבל נגרם נזק סביבתי.
אחד בצהריים מתח שני, גם כאן פגיעה סמוך לכמה בתים עם נזק ברכוש בלבד. אז הגיע השלישי, שוב פגיעה בבית, שוב למרבה המזל אין נפגעים.
12:30, אשקלון, אזעקה מפלחת שוב את האוויר. הרחובות כמעט ריקים, אבל שימו לב לאיש הזה. הוא מסרב להתרגש וממשיך לצעוד לאט כאילו אינו שומע, רק כמה שניות מפרידות בין מוות בטוח לנס. רגע אחרי הפיצוץ האיש נעלם מהתמונה, כמה שניות אחר כך כבר מגיעים הסקרנים, ביניהם גם זה שניצל.
היום הייתי בסעדים ממוות 4 שניות, זה מה שזכור לי במוח נראה לי. אבל הנה אבא שבשמיים השאיר אותי עומד, ברוך הוא ברשומו על הרגליים.
גם המקרה הזה נגמר בנס.
באותו הזמן בדיוק פוגעת רקטת גרד נוספת פגיעה ישירה במפעל, שלמרבה המזל היה סגור. 5 דקות לאחר מכן, שוב כמו אתמול בבאר שבע, מתפוצצת רקטה בכביש ראשי. הפעם רק במזל היא מפספסת במטרים ספורים כלי רכב חולפים. וזה מגיע לאחר שהבוקר פגע רקטת קסם פגיעה ישירה במחסן במועצה האזורית אשכול.
כמה זמן המזל יחזיק לנו?
דקה לפני תום ההפוגה ההומניטרית, חמאס מרחיב את הירי. מתחי אש לעבר כל יישובי הדרום.
בשעה 4, חשש לחדירת מחבלים באזור אשכול, כוחות הביטחון הוקפצו וכבישים נחסמו.
מבצע צוק איתן, מלחמה קשה שנכנסנו אליה בעל כורחנו. וזה עצמו נס גדול. ברגע שחיילינו נכנסו לעזה, הם גילו עשרות מנהרות תופת שדרכם תכננו המרצחים טרור בסדר גודל של שואה חס ושלום. הקדוש ברוך הוא הכניס אותנו בעל כורחנו למלחמה הזאת. ועם זאת, עם כל הבלגן, הוא ממשיך עם הניסים והנפלאות.
פלטים נפלו פה ברצפה, זה מה שנשבר, ירד מלמעלה לפה. באמת זה חסדי השם מה שקרה פה, ראינו זה חי, ממש מטר מאיתנו, החדר ממד, אני לא יודע אם זה היה עוזר, החדר ממד, מהחתיכה שנפלה פה. ממש סייעתא דשמיא. בלוני גז פה גם באזור, ממש, הקדוש ברוך הוא שמר עלינו. וצריך להגיד לו, אבא, תודה רבה.
פתאום אני שומע שובל של אש יורד מהשמיים, והיה בן אחי לידי, בגיל 9, היה לידי.
אני רואה את האדון הנכבד הזה, בעיניים, בורק את הילד, דני האחיין שלו, ובורח מהקיר ממש, שיסס אותו ברבע שנייה.
שנייה אחת ניצלנו מהאבנים.
אז אנחנו נמצאים כאן באשקלון, בבית משפחת כהן שנפגע בבוקר מטיל גרד שפגע ישירות בבית. יש כאן נזק עצום, אבל הנס הגדול הוא שבני המשפחה שהיו באותה שעה בבית לא נפגעו. כאן בעמדת השידור ראש עיריית אשקלון איתמר שימוני. הבית, מעבר לזה שהבית נפגע, גם יש פה תחנת הסעה שניזוקה.
כן, סמוך 5 מטרים מהבית, תחנת הסעה שאמורה להסיע בכל בוקר כ-200 ילדים מצטופפים פה. אני לא רוצה לחשוב על התסריט הזה או התרחיש הזה שהטיל הזה נופל שילדים עומדים פה.
באר שבע, רקטה נפלה במגרש כדורגל בדיוק מספר דקות לאחר שקבוצה גדולה של נערים ששיחקו שם החליטו להחליף מקום. ועוד בבאר שבע, רקטה נפלה בדיוק ליד בלון גז, ובנס הוא לא התפוצץ. שער הנגב, טיל פגע פגיעה ישירה בבית משפחה שיצא יום קודם לנופש קצר במרכז. הרקטה פגעה ישירות בחדר של הילדות הקטנות. המועצה האזורית אשכול, פגיעה ישירה של רקטה שפערה אחור באמצע המטבח כמה שניות לפני שהדיירים נכנסו לשם. אשדוד, רצף אזעקות נשמע בעיר במהלך השבוע כשהטילים נוחתים בזה אחר זה, כמעט ללא הפוגה. אזעקה רודפת אזעקה, ונס רודף נס. רקטה נפלה בעיצומה של חתונה המונית שהתקיימה באחד האולמות בעיר. הרקטה נפלה בחנייה, מטרים ספורים מן העולם עצמו. ברוך השם, אין נפגעים. באותו שבוע, רקטה פגעה במרכז קניות ידוע בעיר. בדרך כלל, המקום עומד אדם. ברוך השם, אין נפגעים. פגיעה ישירה במקווה של בית כנסת ידוע בעיר. הפעם, המקווה היה סגור ליומיים, לרגל שיפוצים. רקטה נפלה בתחנת דלק באשדוד, וגרמה לבעירה של מכלי דלק, שהכילה 30 אלף ליטר בנזין, ועוד 100 אלף ליטר מתחת לאדמה. חשש גדול לפיצוץ שיכול היה לגרום לנזק עצום ומדהים שעוד לא היה כמותו. כך אמרו הקבעים כשסיכמו, היה כאן נס גדול. ראשון לציון, מתח כבד של רקטות נפל על העיר ביום שני. אחת מהן פגעה פגיעה ישירה בגג בית ספר, כשהרסיסים מתפזרים בכל שטח בית הספר, כולל הכיתות, וברוך השם הם נפגעים. ועוד בראשון, טיל של כיפת ברזל נפל כ-30 סנטימטר ליד מקבץ של 6 בלוני גז, באזור צפוף ומיושב, ובנס לא התפוצץ. כפר שלם, רקטה פגעה פגיעה ישירה, בדיוק בחדר בו שעתה באותו הזמן, בעלת הבית, שבדרך נס יצא מן החדר דקות ספורות קודם לכן. תל אביב, אחד ממפעילי כיפת ברזל באזור המרכז, מספר, ראינו טיל שלפי כל החישובים הוא פוגע ישירות במגדלי עזריאלי, המאוכלס באלפי אזרחים. שלחנו שני טילים של כיפת ברזל לעברו, ושניהם פספסו אותו. נלחצנו, התחלנו להזיק אמבולנסים ומשטרה, התכוננו לגרוע מכל. מספר שניות לפני שהטיל הגיע לבניינים, באה לפתע רוח מזרחית והסיטה אותו מערבה אל כיוון הים. קפצתי מרוב התרגשות וקראתי, יש אלוקים, יש אלוקים. בחולון, טיל פספס ילד ברבע שנייה. מנס ציונה, טיל נפל באמצע כביש סואן. ברוך השם, אין נפגעים. חייל ניצל ממוות בטוח, לאחר שקליה שנורה לעברו, נתקע ברימון שהיה עליו. בדרך נס, הרימון לא התפוצץ. 300 חיילי גבעתי התאספו להדרכה בשטח כינוס מחוץ לעזה, כשלפתע פצצת מרגמה נופלת במרכז שטח הכינוס, ובנס הפצצה לא התפוצצה.
אצטרה, אצטרה, אצטרה. On peut pas ne pas être ému. Moi, quand j'ai vu ce cours-là, j'ai préparé, j'étais tellement ému. Combien de miracles Dieu fait avec nous. Que la chaîne Amnoucha, Moshe Bagoïm. À Dieu appartient leur royauté, c'est le roi du monde. Moshe Bagoïm, il gouverne les peuples. Ils veulent notre fin, et après 3500 ans, on est encore toujours là. Comment ils expliquent ça? Alors, c'est intéressant de voir ici, je vous amène une citation qui vient de Memory TV, l'Observatoire du Moyen-Orient. C'est un extrait d'un discours de Mehdi Taeb. Qui est Mehdi Taeb? Le président de l'équipe de réflexion Amar du dirigeant iranien Al-Khamenei est considéré comme son proche, a prétendu le 13 avril que les juifs possédaient le pouvoir de sorcellerie le plus puissant du monde. On voit qu'on veut attaquer, on voit que normalement il y a des statistiques, on sait qui, quoi, comment, et tout part en cacahuète. Forcément, Dieu est avec nous, pensent-ils eux, d'accord? Donc que font les juifs? Ils ont une sorcellerie, mais contre Dieu lui-même. Alors regardez qu'est-ce qu'il va dire. Les juifs ont toujours eu pour l'habitude de s'adresser à des devins dont la source d'inspiration provient des étoiles et de l'astronomie, ou d'actes de sorcellerie qu'ils ont appris grâce à leur contact avec différents peuples au cours de l'histoire. Selon leur conception, il est possible de contrôler la nature et le monde, et même les décisions divines, par des méthodes de sorcellerie. Nous, on répondra, toc toc, c'est tout, voilà, réveille-toi. Comprenez de quel côté se trouve Hachem. Et vous aussi, faites tchouva, pourquoi pas. Mais nous, quand on voit des miracles pareils, qu'est-ce qu'on doit dire à Dieu? Agmar a dit, il y avait un des plus grands rois d'Israël, il devait être Mashiach, c'est-à-dire Hizkiyahu. Il aurait dû être Mashiach. Pourquoi il n'a pas été Mashiach? Parce qu'il n'a pas fait une chira, il n'a pas chanté à Dieu. Quand on nous fait des miracles, il faut au moins dire merci. Dieu est le roi du monde. Je pense qu'il faut remercier Hachem. On va peut-être le faire maintenant tous encore. Lui dire à quel point il est notre roi. Nous le remercions. On le remercie pour le passé. Et on crie et on le supplie pour le futur, qu'il vienne à notre aide et qu'il continue encore à être notre roi avec tellement de clémence et de miséricorde. Hashem Malach, Hashem Nikor, Leolam Vaheh, Hashem Nikor. Ok, c'est bon, Chazak Barou. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Je suis convaincu que dans le ciel, ils aiment beaucoup ça. Ok, monsieur, on va finir avec la suite du programme. Ce soir, je rentre à Jérusalem, la suite du programme. Et dans 3 mois et demi exactement, c'est la fin de l'année. La Gemara Traité Megillah expose les raisons qui ont motivé le sens, l'ordre chronologique des brachot dans la Amida. Magan Avraham en premier, après Mechayam Etim, Akel HaKadosh. On arrive à la 7e bracha. Baruch Ata Hashem, Goel Israël, béni sois-tu l'Éternel, qui sauve, amène la rédemption au peuple d'Israël, la Géoula. Pourquoi est-ce qu'on a placé cette bracha en 7e position ? Répond la Gemara, parce qu'en 7e année aura lieu la Géoula. On sait qu'il y a un cycle de 7 années. 7e année, c'est l'année shabbatique. La terre doit ne pas être travaillée. Les fruits ont une sainteté. Et c'est durant la 7e année que la Géoula doit arriver. La Gemara objecte, c'est pas possible. C'est faux. Parce qu'on a un autre enseignement qui nous dit que la 7e année, il y aura une guerre. Et seulement sortant cette année, Motsei Shvit, ça sera le 13 septembre au soir, cette année, 2015, on sort de la 7e année, là vient le Mashiach, dans 3 mois et demi exactement, avec l'aide de Dieu. Donc d'après la Gemara, une guerre doit éclater. Aujourd'hui, si on regarde les tensions géopolitiques, si on regarde la situation économique qui est au bord du crash, il y a tout, même les goïms, les grands analystes qu'on ne médiatise pas, mais je suis au courant par des gens qui m'ont mis au courant, et que, déjà prononcé, il y a actuellement toutes les recettes pour une 3e guerre mondiale. Le Hafetz Chaim, qui est le plus grand rabbin du siècle dernier, et c'est en 1933. Il a dit, après la première guerre mondiale, il y a eu une première guerre mondiale effroyable. Mais sachez, a-t-il dit, il y aura bientôt une 2e guerre, par rapport à laquelle la première ne sera qu'un petit jeu d'enfant. Et après la 2e, il y aura encore une 3e guerre mondiale, par rapport à laquelle la 2e ne sera qu'un jeu d'enfant. Les deux rabbanim qui ont entendu ça de la bouche de Chafetz Chaim et qui ont répété, ont dit, à notre avis, il s'agit d'une guerre spirituelle, entre le mal et le bien. Et effectivement, il y a une guerre terrible aujourd'hui. Une guerre terrible. On voit à quel point il faut se battre pour que nos enfants restent dans la Torah, que pour chaque mitzvah, à quel point les serra, ils se déchaînent. Mais, si on prend le sens simple, pshat, si Chafetz Chaim a dit deux guerres, c'est des guerres physiques, il y a lieu de croire que la 3e aussi sera une guerre physique. Donc je ne suis pas prophète, je ne sais pas ce qui va se passer, mais si cette année est la bonne, et on espère que c'est la bonne, normalement il y a une guerre qui se prépare. J'espère qu'elle va éclater 2 heures avant la fin de l'année, parce qu'on n'a pas envie de tenir le coup deux mois dans les abris. Mais tout est prêt pour qu'il y ait une guerre qui se prépare. Et on doit être prêt pour cela et faire tchouva, se renforcer. Et écrit dans la Gemara, que doit faire l'être humain pour être sauvé des douleurs d'enfantant du Messie ? La Gemara répond, 2 choses. Il y a Asok Batorah, ou Gmout Chassadim. Qu'il soit affairé en étude de Torah et dans l'entraide. Affairé. C'est pas il va à 1 heure, de temps en temps, Shabbat, écouter le Rabbin Simon à la synagogue, comme ça il est tranquille. Affairé. Chaque seconde on peut étudier, il faut étudier. Et Gmout Chassadim, s'entraide, aider le Chassad. Kamara dit, il y a un rabbin qui s'appelle Rabba, qui a dit que vient le Mashiach, mais je ne veux pas être présent quand il viendra, tellement ça va être terrible. Son élève Abaye lui a demandé, pourquoi est-ce que tu t'inquiètes ? On sait bien qu'il y a cet enseignement de Rabbi Eliezer qui dit que pour être sauvé des douleurs d'enfant du Messie, il faut être affairé en Torah, en Gmurasadim, en entraide, et toi tu as les deux. Il dit, Shema et Gromachet, peut-être le péché va faire que malgré tout, ça sera terrible. Il faut une 3e chose, il faut qu'il n'y ait pas de péché. Il y a des péchés. Mais il y a la tchouva. Chacun d'entre nous doit faire son mea culpa, regarder ce qui se passe chez lui, dire à Dieu, je regrette, je change. Commencez à... On ne peut pas devenir tous des grands sadiques du jour au lendemain, mais commencez au moins, au lieu d'être dans la baisse ou dans la stagnation terrible, montez. Et même si tu montes, monte encore peu, en plus. On est peut-être, mesdames, messieurs, dans la dernière ligne droite, 3 mois et demi. Et sachez que les choses avancent. Ce matin, je leur donne une chose extraordinaire. Ça m'a mis toute ma journée, j'étais dans le 7e ciel. Lors de la Kedat Yitzhak, Dieu vient et bénit Abraham Avinu. Il lui dit, Harba et Zaracha, Vayu Kachvah Shamaim, Vekachol Hashar al Satayam, Virash Zaracha et Shar Oivav. Le Midrash, Bereshit Rabba, chapitre 56, alinéa 11, dit une bracha pour le père, une bracha pour le fils. La descendance, le fils, la descendance. Le père, tu auras une grande descendance. Innombrable comme les étoiles du ciel et le sable de la mer. Et une bracha pour le fils, virash zaracha et char oivav. Et ta descendance va hériter le portail de ses ennemis. C'est quoi ce portail? Le Midrash dit là-bas, le portail des ennemis, c'est une ville qui s'appelle Tadmor, qui a été créée par le roi Salomon. C'est marqué ici comme ça dans les chroniques d'Ivra Yamim, et aussi dans Melachim. Une ville qui se trouve en Syrie, à la porte du désert, Sha'ar, le portail, la porte du désert des ennemis, la porte du désert iduméen, c'est Edom, l'Occident, et Ishmaël, arabe. Le Midrash dit... Bienheureux celui qui verra la chute de Tadmor. Le 21 mai, donc il y a une dizaine de jours, mesdames, messieurs, cette ville qui s'appelle Tadmor en arabe, mais Palmyre en français, est tombée dans les mains du Daesh. La chute de Palmyre. Alors, des quinzaines de fois durant l'histoire, Palmyre est tombée et il y a eu des chutes. Mais dans la conjoncture des événements que nous vivons aujourd'hui, à mon avis, J'espère qu'on est sur le bon palmier et tombé. Bienheureux celui qui verra cela, mais qui méritera de voir la suite du programme. Encore une fois, je vous dis, c'est pas facile. C'est deux grands rabbins. Un s'appelle Rabba, j'en ai parlé auparavant. L'autre s'appelle Oula. On dit qu'il vient, machin, je ne veux pas être présent quand ça va arriver, ça va être terrible. Oula, pourquoi il s'appelle comme ça? Moi, je sais parce qu'il a dit Oula, Oula. D'accord, Oula, là. Mais si on fait tchouva, alors Hachem, Dieu ne nous a pas envoyé ici pour mourir. Si on fait tchouva, ceux qui ne méritent pas ne seront pas là, mais qu'on fasse partie de ceux qui méritent. L'été arrive, l'été va être chaud, il ne faut pas que les dames se déshabillent trop, les hommes doivent faire attention à ce qui se passe dans la rue aussi avec leurs yeux, et je ne sais pas s'il ne risque pas d'être chaud aussi au niveau géopolitique, les guerres, je ne sais pas. En tout cas, si jamais vous voyez que ça commence à chauffer, alors faites la tchouva d'enfer. Plus que Baba Salé, vous devenir. Chaque prière, c'est une prière. Chaque bracha, c'est une bracha. L'étude de Torah sans cesse. On fait tchouva, on fait attention à ses yeux, on fait attention à la tzniout, on fait attention à tout ce qu'on fait. Il est écrit dans le Midrash, c'est Midrash, comment ça s'appelle ? Otsara Midrashim Az Einstein. Il y a plusieurs Midrashim là-bas. Il s'appelle Midrash Rabbi Shimon Bar Yochai, page 556. Et voici le signe de la Géoula. Kshéipol, quand tombera, Néron, Kessar, Hamizrachi, Shebedamesek. Quand tombera le César Néron de l'Orient qui se trouve à Damas. C'est quel est votre avis, un Néron César à Damas? Bachar el-Assad. Ça commence à aller très mal là-bas. Alors, quand on voit le Daesh qui prend Palmyre, quand on voit maintenant Assad qui commence à décliner, tout ça nous dit, messieurs, attention, il y a lumière rouge qui commence à s'allumer, alarme, faites tchouva. Comment ça va se passer, je ne sais pas. Mais, quelques petits éléments supplémentaires. Il y a une Kabbalah, c'est une tradition orale qui est écrite nulle part. Mais j'ai entendu déjà il y a 30 ans quand j'étais à la Yeshiva, et elle revient sans cesse. Aujourd'hui, celui qui rappelle cela beaucoup, c'est le Rav Sternbourg, c'est le président du Badatz, qui est un descendant du Gaon de Vilna. Il dit qu'on a une Kabbalah, une tradition du Gaon de Vilna, le génie de Vilna, un des plus grands rabbins des 5 derniers siècles, vivait il y a 300 ans, 250 environ à Vilna, qui a dit comme ça. Il a dit deux choses. Il a dit première chose, lorsque les Russes vont conquérir la Crimée, Machiav se rapproche. Ça date d'il y a un an et quelques mois. Donc Mashiach est très proche. Deuxième acte, lorsque des bateaux de guerre russes ont traversé le détroit du Bosphore, Istanbul, ben Israël revêtront les habits de fête pour recevoir Mashiach. Alors je ne sais pas comment ça se passait. Comme j'ai dit, il doit y avoir une guerre. On ne sait pas si c'est que Israël, est-ce que le monde entier, est-ce que d'abord entre eux, puis après contre nous, il y a Gog ou Magog, à la fin tous doivent venir contre nous. Normalement Gog ou Magog a lieu à Sukkot. Donc si on suit le programme bien, à la fin de l'année, Mashiach il arrive, après quelques jours, on est en train de 10 jours de pénance pour faire une belle chouva, Yom Kippour en pleurs, les peuples qui viendront nous attaquer, c'est pendant Sukkot. Et durant la fête de Sukkot, comme ça dit Rabbeinu Ari, chaque jour de Sukkot, un septième de Gog ou Magog va disparaître. Mais ils doivent arriver quand même à Jérusalem et mourir là-bas. Ça va être terrible. Alors, c'est marqué qu'ils viennent du nord. Vous pouvez lire tout cela dans Ézéchiel chapitre 38. Comment ils viennent du nord ? C'est intéressant d'ailleurs. Ils viennent du nord et le roi, Gog ou Magog, c'est quoi ? C'est le roi qui s'appelle Gog du pays de Magog. Alors Gog, c'est un surnom. Magog, c'est le nom de son pays. Mais quel pays ? Alors c'est pas marqué. C'est marqué juste qu'il vient y arqueter sa le fond du nord. Alors au nord, c'est bien, on a tous nos meilleurs amis. T'as le Liban, la Syrie, la Turquie, l'Irak, l'Iran et la Russie. Mais le fond du nord, il semblerait que c'est la Russie. Maintenant, il y a un certain signe qui montre cela dans le verset. C'est marqué Gog Nessi Mesher Vetuval. Nessi Rosh Mesher Vetuval. Le roi président de Mesher et Tuval. Qu'est-ce que Mesher Tuval ? On ne sait pas. J'ai entendu il y a quelques dizaines d'années. Mesher, c'est Moscou. Ça se ressemble. J'ai fait un cours là-dessus il y a quelques semaines sur Internet. Quelqu'un m'a écrit, mais Tuval, mais c'est très clair que c'est Tuval. Tuval, c'est la capitale de la Géorgie. Tbilissi, 1 100 000 habitants, la capitale de la Géorgie. Donc on parle maintenant de la Russie. La Russie est censée arriver dans la région. Je ne sais pas, encore une fois, je ne suis ni prophète ni fils de prophète. On ne sait pas comment cela va avoir lieu. On peut faire des projections. J'imagine que si Bachar al-Assad tombe, la Russie, sa seule implantation du Moyen-Orient, c'est la Syrie, donc elle risque de venir intervenir, elle va dire non et oui et non, ça commence à être le grand balagan, et Mashiach vient. Et ceux qui mériteront de voir Mashiach, alors on va revêtre les habits de fête. Mais mesdames, messieurs, il faut être méritant. J'ai dit au début du cours, 2/3 de la terre vont disparaître. Et la terre, c'est aussi la terre d'Israël. Le dernier tiers, c'est marqué « Utseraftim kitzrof ha-kesev ha-zav ». Je vais l'affiner comme on affine l'argent et l'or. C'est quoi affiner ? Tu prends de l'argent, tu prends de l'or, des pépites. Il y a des scories, il y a des saletés. Alors tu prends le karcher et tchiii. Donc moi, je dis, qui on doit affiner ? Dans le monde américain et israélien, c'est très compartimenté. T'as les froums, les noirs, puis t'as les frais, athées complètement, rien du tout. Le monde israélien aussi, en gros c'est comme ça. T'as une grande communauté au monde, une seule, c'est des bons juifs, un cœur en offre. Ils adorent la Torah, ils adorent les tzadikim beaucoup de fois, et ils font tout moitié-moitié. Les Français, McDo Fish, fait le kidouche, on baisse la télévision. La tzinouk des femmes, c'est très connu. Même les religieuses françaises qui sont en Israël, elles n'ont rien à voir. C'est tzinouk, mais c'est pas tzinouk, c'est tzinouk à la française. C'est moitié-moitié. Le moitié-moitié-moitié. On fait Shabbat, on va à la plage à Natania. C'est exactement ça. Utseraftim, je vais les affiner. C'est qui, Utseraftim ? Les lettres Utsonfatim. C'est eux qu'il faut affiner, mesdames, messieurs. Je ne sais pas si c'est qu'une blague. Cela nous concerne tous. Qui peut dire, moi je suis prêt pour recevoir Mashiach ? On doit faire tchouva. Père Hachem, je vous bénis, je nous bénis, qu'on reçoive Mashiach, Berachamim, que Dieu continue de nous protéger comme il y a jusqu'à maintenant. Beaucoup de sacha à la communauté ici de Rabbin Simon, et une tchouva pour nous tous, et bientôt au Mikdash pour recevoir Mashiach dans la joie. Amen. Allez, en chantant.
Allez, plus fort, Eric.